de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Voyage au bout de la nuit à New York City, avec une grande voix de la radio et un poète, avec ses célèbres émissions nocturnes Ronde de nuit, La parole est à la nuit, Luc Bérimont en 1975 pour France Culture. New York est bien le domaine de la nuit, comme le titre de ses poèmes, alors balade poétique, crépusculaire, comme une dramatique radiophonique, et le voyage commence un vendredi soir, tombé de la nuit.
À New York, l'empire souterrain du métro a mauvaise réputation. On ne s'y aventure pas seul à certaines heures sans une espèce de battement de cœur. Il est vrai qu'on ne s'aventure plus nulle part dans cette ville sans avoir l'impression de commettre un acte de bravoure, enfin de risquer un peu le tout pour le tout. New York, il faut le dire, est une ville dangereuse. Il n'est jusqu'à l'hôtel où vous êtes installé, mais commençons par le commencement, c'est-à-dire par un de ces ascenseurs programmés que vous avez attendu de longues minutes au 37e étage dans un immense corridor désert, la raison toute simple du retard étant que sur une batterie de 5 ou 6 ascenseurs, il y en a toujours un en panne. Voilà, vous êtes à New York depuis 2 heures à peine, débarqué à Kennedy Airport après un vol transatlantique sans histoire. Vous tombez un vendredi soir, la veille du sacro-saint week-end, le week-end qui vide la ville de la population des bureaux. Vous poussez le tambour de l'hôtel, sous l'œil du portier en uniforme, et vous passez, livré à vous-même, de cet univers protégé de l'hôtel, du hall de l'hôtel, aux longs espaces rectilignes des avenues. Et voilà ce que vous découvrez.
L'ascenseur pour descendre du 25e étage. C'est vendredi soir, il est environ 18h heure locale. Pour nous, il est déjà tard, quelque chose comme 1h ou 2h du matin. Les gens sont très endimanchés, très pomponnés, les femmes ont les cheveux raides. Et à côté de nous, on remarque une petite dame, genre, disons institutrice en retraite, dans un tailleur gris, austère. Et sur le revers de sa veste, elle porte un badge où il y a écrit « Rien ne vous empêche de penser que je suis homosexuelle. » Dehors, il fait déjà nuit. Ça clignote. Les phares. Nous sommes sur la 8e avenue, vers la 43e rue. On voit au fond Broadway, les théâtres, et puis Times Square avec le journal lumineux au loin. Ça sent la frite. C'est un peu une atmosphère style Pigalle. Tout à coup, devant nous, une fille s'écroule. En hurlant, se met à se rouler par terre. Personne ne fait attention. Un peu plus loin, 2 types commencent à s'engueuler. Ils se prennent au collet. L'un déchire la veste de l'autre. On sort un couteau. Personne ne remarque toujours. Nous continuons. Une ambulance passe. Alors là, on est entouré d'une faune très inquiétante. Vraiment une faune crépusculaire, des travestis, du clinquant, enfin, une atmosphère d'an 2000 malsain. Et au milieu de tout ça, de ces gens crasseux, équivoques, s'arrête une voiture de maître, je crois une Bentley, je crois, très astiquée, conduite par un chauffeur en casquette. Le chauffeur descend, enlève sa casquette et ouvre la porte à une dame en robe du soir vert pomme, avec des paillettes et une étole de vison, suivi d'un homme en smoking, aux cheveux gris. Alors on se dit, il va se passer quelque chose, enfin, il va y avoir un accrochage entre ces gens et la rue. Mais pas du tout, Personne ne les voit, ils semblent ne voir personne, et ils entrent par une porte à tambour, je crois dans un restaurant. Je dois dire que là, on est quand même un peu paniqué, parce que quand on débarque d'un avion, on est fatigué, on n'est pas prêt à assumer un choc pareil. Réflexe de fuite, on décide de s'engouffrer dans un restaurant. Il s'avère d'ailleurs qu'on n'a toujours pas quitté l'hôtel, on a fait 100 ou 150 mètres, on se retrouve dans le restaurant du rez-de-chaussée de l'hôtel. Alors là, paix, calme, fauteuil de cuir, musique douce. On dîne d'une sorte de goulash, une viande bouillie à l'américaine. Il y a deux serveurs noirs, visiblement surchargés de travail, qui transpirent. Et puis derrière la baie vitrée, derrière des petits rideaux de macramé, on voit continuer cette procession. Alors après avoir un petit peu bu, s'être restauré, on se regarde et on se dit « mais c'est pas possible, on va quand même pas se dégonfler ». On va quand même y aller, on va voir.
La nuit New York, c'est quelque chose de fabuleux. C'est une espèce de jungle dans laquelle sautent, explosent des barils de publicité. On est à la fois fasciné, ahuri, abruti, révolté. Mais ce qui prime, à mon avis, c'est le côté magnétique, maléfique, magique, électrique, au milieu des tas de détritus entourés d'ombres qui vous frôlent. On ne sait jamais exactement d'ailleurs ce qu'elles veulent. Il y a évidemment là-dedans beaucoup de drogués, des types qui planent, comme on dit, et dont les ambitions ne sont d'ailleurs pas démesurées. Ils vous demandent simplement $1 pour pouvoir aller s'acheter une dose de quelque chose, du H ou je ne sais trop quoi. Évidemment, ce qui est dangereux, c'est de rencontrer un de ces malades, car ce sont évidemment des malades, en état de manque. Lui refuser ce qu'il attend, ça peut déclencher une réaction de violence qui permet de dire que New York est peut-être la dernière ville au monde où on se fasse tuer pour $1. Les New-Yorkais se prémunissent, eux, en ayant toujours un billet plié dans leur poche, ce qu'ils appellent « mugging money », l'argent, en quelque sorte, l'argent de celui qui se fait braquer. Mais il y a un truc meilleur que conseillent les chauffeurs de taxi aux étrangers qui débarquent, c'est de toujours circuler en groupe. Le groupe constitue la seule protection efficace. Avec le groupe, vous prenez le métro, vous circulez partout à n'importe quelle heure de la nuit. Mais si par hasard quelqu'un s'éloigne, si quelqu'un s'écarte de 10 mètres, soit pour regarder une vitrine, pour renouer son lacet, il est immédiatement entouré de deux ou trois de ces ombres dont je viens de vous parler et dont l'abord est pour le moins peu engageant.
Moi, les nuits à New York, ça a été les promenades que j'ai faites du West Side au Greenwich, où il y a les longues files de camions entre les docks et où les angels aux cheveux ras et aux bottes de cuir draguent les garçons en moto. C'est un érotisme phallique qui débouche parfois sur la mort d'ailleurs. Et puis l'arrivée de New York, je crois que c'est l'impression de force colossale qui se dégage de ces montagnes de verre et d'acier. Et c'est pourtant une chose curieuse, il n'y en a pas l'impression d'écrasement. C'est un peu comme dans les Pyrénées. Des sommets et des vallées. Puis la patinoire devant le Rockefeller Center. Ce Rockefeller qui ressemble à un immense lion de pierre, qui est couvert souvent de nuages rouges.
On peut tomber amoureux de cette ville-là comme on tomberait amoureux d'une prostituée, en quelque sorte.
Bon, je me souviens une fois d'être arrivé à New York un dimanche matin, je crois. Il neigeait d'une façon extraordinaire et j'ai pris l'autocar de Kennedy Airport jusqu'à Park Avenue, jusqu'à la 34e rue, qui est le terminal dans New York. Et l'après-midi même, la ville était complètement paralysée par la neige. Il y avait 1,20 m de neige dans les rues et tout était absolument arrêté. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait plusieurs milliers de personnes à Kennedy Airport qui étaient paralysées. Il fallait les ravitailler par hélicoptère. Les voitures étaient immobilisées dans les rues les unes après les autres, embourbées dans la neige. On pataugeait dans une sorte de boue noirâtre absolument effarante. Et dès le lundi matin, les magasins qui vendaient des chaussures, des snowboots et des chaussures pour marcher dans la neige et la boue étaient absolument envahis de monde. Et j'ai l'impression que New York est la ville où les intempéries sont le plus extraordinaires. Sartre dit quelque part que c'est la ville où on est le plus en contact avec la nature. C'est la ville la plus naturelle du monde.
Je voudrais reprendre la description de la nuit de New York, qui est bien, à mon avis, ce qu'il peut y avoir de plus saisissant pour nos yeux. Imaginez-vous. Derrière la fenêtre à glissière et sans rideau, au 37e ou 42e étage, si vous voulez, de votre hôtel. Devant vous, les gratte-ciels entrent lentement dans l'humidité atlantique. Le ciel les bloque, les scalpe, littéralement. Leur sommet est pris dans les nuages quand le plafond est bas. Au ras du sol, vous voyez fumer les tuyaux jaunes, les tuyaux du chauffage urbain, et tout d'un coup, bien avant l'heure du sommeil, les sirènes de la police se déclenchent en hurlant à la mort. Ça dure comme ça toute la nuit. On pense à des hyènes en folie. Et on n'arrive pas, évidemment, à trouver le sommeil. On se rappelle les histoires qui circulent. Car le fait d'être enfermé dans une chambre d'hôtel derrière une porte où il y a 5 verrous ne protège pas de grand-chose, au fond. La police fait des rondes dans les étages, dans les couloirs, et il y a un écriteau au mur de votre chambre. Si vous entendez crier, prévenez par le téléphone. Sans tomber dans les comparaisons faciles, on peut dire qu'il y a dans tout ça un côté maquis, un côté Berlin des années 30, auquel la vague d'érotisme qui mobilise les cinémas de la 42e rue ne fait qu'ajouter des paillettes. On pense au maquis de l'opéra de Katsu, Max von Eyff, parce qu'ici aussi, le meurtre est redevenu artisanal et parce qu'on y tue au couteau. Je peux vous raconter l'aventure d'un écrivain de mes amis et de sa femme. Ils ont l'habitude, l'un et l'autre, de dormir avec des boules dans les oreilles et un bandeau sur les yeux. Et c'est cette habitude qui leur a sauvé la vie. Une nuit, des voleurs plus ou moins acrobates se sont introduits dans leur chambre d'hôtel, descendant le long de la façade et en soulevant la fenêtre à guillotine. Ils ont emporté tout ce qu'ils avaient, jusqu'à leur linge intime, jusqu'à leur passeport. La chance veut qu'ils n'aient rien entendu. Je dis la chance parce que la voisine, qui, elle, s'était réveillée au mauvais moment, a été retrouvée égorgée. Évidemment, les Blancs accusent les Noirs de tous les crimes, et inversement. La haine, l'intolérance raciale est à son comble là-bas. À Harlem, par exemple, on jette des pierres aux voitures des Blancs qui s'y hasardent, et leurs essuie-glaces naviguent dans les crachats. Par contre, on ne sait pas pourquoi, il y a une photo de Catherine Deneuve dans la vitrine d'un coiffeur noir. Dimanche matin, 5e avenue. La ville est vide, il n'y a pas un bruit. Rien que les hauts murs de béton d'où tombent les pages arrachées des bottins les jours de joie officielle quand il y a les majorettes. Il y a un crottin qui fume sur l'asphalte juste devant Rockefeller Center.
On se fait souvent des idées très fausses sur New York. On croit que les Américains sont des gens pratiques, ce sont les gens les moins pratiques du monde. Ne pas croire non plus que New York est une ville de gratte-ciel et une ville absolument inhabitable, c'est pas vrai. Il était question à un moment de recouvrir la ville par une sorte de dôme en plastique pour éviter la pollution de l'air. Mais s'il y a quelques très beaux buildings qui dépassent, certains dépassent la Tour Eiffel, il y a aussi dans des quartiers interminables, des quartiers infinis, des petites maisons basses en briques qui font un ou deux étages, dont les fenêtres sont cassées, où le linge sèche dans les arrière-cours, et c'est vraiment le contraire de cette ville que l'on imagine surhumaine. Et New York, c'est pas du tout métropolis, c'est une succession de petits villages avec au milieu des choses tout à fait insolites et qui se dirigent vers le ciel et dont on ne sait pas très bien si elles sont humaines ou si elles sont d'une société future. Mais en fin de compte, New York est une ville humaine à la dimension de l'homme et inhumaine quand même.
Un homme passe avec son journal du dimanche. L'épaisseur du papier sous son bras fait que on peut le confondre avec un crieur ambulant. Je m'approche, je lui demande de me vendre un exemplaire et il montre que c'est son journal à lui, son Sunday News, 950 grammes, 25 cents. Il y a des vols de mouettes en direction de l'embarcadère, une flaque qu'on voit briller tout au bout de la rue de l'Actor Studio.
On embarque sur une espèce de bateau-mouche, vraiment le bateau du touriste, décidé vraiment à tout faire en bon touriste consciencieux. Ces petits bateaux s'appellent la Circle Line, ils font le tour de Manhattan. En fait, New York est une île. Alors, on commence par longer le port, au loin on voit la fameuse statue de la Liberté, enfin tout le folklore quoi. Et puis à un certain moment, on tourne et là on se trouve à la pointe de Manhattan. Et là, il faut dire que vraiment, on ressent un choc car on s'aperçoit que New York est peut-être un enfer, mais c'est aussi une ville d'une beauté prodigieuse. Il y a cette tour gigantesque qui est maintenant plus grande que l'Empire State Building, qui s'appelle la tour du commerce. Et on voit au bout de Manhattan cette formidable concentration de ciment et de béton. Et on apprend, on nous dit à ce moment-là, que si New York peut supporter un tel poids de construction, c'est que la ville est construite sur un sous-sol de pierre, un sous-sol rocheux, qui fut échangé contre 24 dollars de verroterie aux Indiens. On continue, et là on passe les premiers ponts. D'abord le pont de Brooklyn, bien connu, qui a remplacé le fameux ferryboat que prenait Whitman. On passe sur la droite, en longeant l'East River, vers un petit bras de mer qui s'appelle la Porte de l'Enfer. Et au bout, alors vraiment stupeur, une sorte de monastère du XIIe siècle, roman, de belles pierres, qui s'appelle les cloîtres. Ce sont des monastères qui ont été transportés pierre par pierre d'Europe. L'un d'Espagne, l'autre de France, je crois.
Pas un arbre dans Manhattan, sauf dans Central Park, où les écureuils rouges viennent manger dans votre main. Et à Noël, j'ai vu arriver d'énormes arbres dans des grands bacs de béton pour un peu garnir les avenues. Et puis, ces longues voitures silencieuses qui roulent si lentement qu'on a l'impression qu'elles glissent.
À 5 heures, les ordures s'abattent d'un seul coup du haut de l'Empire State Building. C'est déjà la nuit de New York qui commence. Les veuves, aux cheveux violets, que des cars ont amenés en groupe de la banlieue du New Jersey, sortent des salles de spectacle, elles vont manger un gâteau, coffee shop, avant de rentrer chez elles, retardées par la charge des banlieues, la charge des voitures, des automobiles. L'île de la publicité, des journaux, des businessmen, fait peau neuve pour la grande parade de 7h30, quand tous les acteurs jouent fardés dans l'éclat d'ampoule éclaté de Broadway. À 10h, tout est fini. Le cauchemar des nuits recommence.
Ma première nuit à New York, j'étais dans un hôtel qui était près du West Side. Et j'avais une énorme baie vitrée et je voyais tout Manhattan illuminé. Alors j'ai ouvert mes fenêtres, enfin même pas, mes rideaux. Mes fenêtres étaient, c'était une énorme glace. Mes rideaux, et je suis resté dans mon lit et j'ai attendu que le soleil se lève sur Manhattan. Je n'ai pas dormi de la nuit tellement c'était extraordinaire pour moi.
Le lendemain matin, les hélicoptères piquent droit sur la congestion insulaire. Leur ventre glauque vers la vague de matériaux que happe le magnétisme de la paranoïa.
Mais le plus extraordinaire, je crois que c'est la nuit. C'est le moment où la nuit commence à tomber sur la ville. Alors que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, il y a une sorte de couleur absolument indéfinissable qui est faite, je pense, des reflets du soleil couchant, rose, bleu, violet, nacré, doré, dans un ciel extrêmement charbonneux et extrêmement pollué. Et tout cela est très, très irisé. Et lorsque, dans cette couleur de cendre, au fond, qui est la couleur du ciel de New York, quand se dressent et quand s'éclairent petit à petit les gratte-ciels, les buildings, c'est tout à fait prodigieux, n'est-ce pas? Toutes ces fenêtres qui s'allument les unes après les autres, qui demeurent pour la plupart du temps illuminées toute la nuit, parce que c'est la nuit que les femmes de ménage font le ménage de ces innombrables bureaux qu'il y a dans les buildings. Certains d'entre eux, avec au sommet une petite ampoule rouge pour avertir les hélicoptères de la Paname qu'il y a un building assez élevé et qu'il faut éviter de se heurter à son sommet. Tout cela prend une allure tout à fait extraordinaire, tout à fait féerique, et je crois que c'est vraiment l'une des plus belles choses qu'on puisse imaginer.
À Wall Street, les journaux jetés forment un fumier conséquent dans lequel marchent les boursiers à l'heure de la clôture des cours.
Au bout de la ville, on trouve le quartier des affaires, la fameuse patrie du big business, Wall Street et autres. Là, c'est la fin de la géométrie. Les rues sont courbes. On sent que ça a été autrefois un petit village reconstruit. Et d'ailleurs, au milieu de tout ce béton, il y a une petite église perdue en dessous ses murailles, petite église noire, entourée d'un vieux cimetière avec même un peu d'herbe, où il y a de vieilles pierres tombales, assez difficiles à déchiffrer, usées par l'humidité, le vent. Car il faut dire qu'il y a beaucoup de vent à New York, c'est ce qui surprend. On s'attend à une ville et en réalité on est vraiment au bord de la mer. Le vent balaye continuellement ces sortes de canyons, on les appelle des canyons parce qu'on voit juste un tout petit peu de jour en haut des murailles, et en dessous on se promène dans une lumière jaune où une humanité minuscule, microscopique, s'affaire. Et à cause de cela, il m'a semblé qu'à New York, on ressentait moins la pollution qu'à Paris. Le vent balaye, on respire mieux, je ne sais pas, c'est sans doute une impression fausse, puisqu'il y a quelques années, je crois que la cote d'alerte a été atteinte et qu'il y a même des gens qui ont ressenti un malaise. Alors donc on se promène au milieu de ces banques, aux noms connus, de ces façades néoclassiques. Et tout d'un coup, en face de la bourse, monté sur le capot d'une voiture, on voit un homme en chapeau haute forme qui pousse des hurlements, qui tient dans une main un drapeau américain, dans l'autre une Bible, et qui dit quelque chose comme, je me souviens plus exactement, mais « Dieu détruira tous ces temples du veau d'or ». Enfin, il jette vraiment des imprécations et les passants écoutent, pas tellement étonnés apparemment. On sent que la scène est assez habituelle pour le New-Yorkais moyen.
Un homme parle à Chinatown dans un taxiphone en forme de pagode. Et le patron du restaurant propose de nous emballer les reliefs de notre repas dans un container en plastique. Les sex shops vendent des poupées dont la langue est électronique. 11 policiers noirs, armés de matraques de caoutchouc à long manche, surveillent de près les clients d'une librairie d'art. À Greenwich, une corde de guitare casse devant les derniers clients du folk song. Les clochards de la Bowery se sont scindés en deux sectes farouches. Ceux qui ne fonctionnent qu'au vin snobent leurs confrères, qui eux ne marchent qu'au whisky. On boit du fort mauvais café, mais le coke se tire à la pression, comme la bière. Quelqu'un qui attend l'ascenseur agresse une femme au sous-sol, prend son sac, la viole et l'étrangle. Il faut disposer de nickel, mais tous les appareils à soupe, comme les ascenseurs d'ailleurs, sont fréquemment en panne. Du haut de l'Empire State Building, la nuit, on voit de longs rubans d'auto jaillir tout phare allumé de la mer.
Ce qui m'a aussi frappé, c'est la poussière et la saleté de New York. Quand on marche dans les rues, on a l'impression qu'il faudrait prendre 3 douches ou 5 bains par jour pour avoir le corps propre. Et puis à 5h du soir, ils sortent les poubelles. Alors, les poubelles, c'est d'énormes cartons et ça fait des buildings de carton que le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, balaie très vite. Alors on marche dans une décharge municipale au bout d'une heure. Et j'ai vu une chose un jour très drôle. Il y avait vraiment des immondices dans la rue, et puis à côté il y avait un hôtel très sélect, et il y avait un noir qui, avec une espèce de, comme un pique-feu, piquait les mégots qui étaient sur le tapis de l'hôtel, qui allaient jusque dans la rue, puisqu'il y a ces tapis qui vont jusqu'au trottoir. Et à côté il y avait vraiment la décharge municipale avec tous les cartons et les saletés qui étaient tombés dans New York, enfin dans la rue. C'était drôle. Et puis la peau très abîmée des vieilles américaines ou des femmes d'un âge un peu certain, parce qu'elles emploient tous les produits de beauté dont on vante les mérites à la télévision. Alors elles emploient tout, n'importe quoi, alors elles ont la peau très abîmée. On dirait des vieux crocodiles parfois. C'est dommage parce que c'est des filles sûrement très belles au départ, et puis elles sont un peu abîmées par ce côté plâtrage.
Un dimanche d'août, l'après-midi, on se baigne dans une eau noire, sous un ciel de plomb et de charbon. Tout le monde est venu sur la plage pour se rafraîchir par le métropolitain, par voiture. Au loin, dans le brouillard, les gratte-ciel. C'est là le rivage oriental de l'océan Atlantique.
Ici, il y a comme un vent qui nous vient des pays étranges. À Greenwich, j'ai trouvé la nuit les grands chiens fous du désespoir. On pense à ce que seront un jour les lourds iguanodons vautrés dans les flaques de fluor de la 42e rue lorsque le fil à plomb tombera de l'œil de Peter Stuyvesant. Toutes les baies seront éventrées et des insectes aux longues queues feront leur nid dans le standard téléphonique des banquiers. À Wall Street, meugle avant la nuit, un monstre aux pattes de lézard, aux mufles de Marlon Brando. Son cri triste et niais fait lever de longs vols d'oiselles à tête de lesbienne. Derrière les grilles de Trinity Church, les tombes du petit cimetière ne sont plus astiquées chaque matin par les crachats des cireurs noirs. Un poisson aux yeux de jaguar s'amuse à remonter le temps dans une cage d'ascenseur pleine de boue. Un angle qui te sert à corps d'égout, de gaz et d'eau potable élève l'encre à tout jamais, démasquant ses salons d'or et ses coursives, ses jets sanitaires. We'll be right back.
so black too. You dig your eyes, well then you're nothing
sad at all.
Stop playing hearts and flowers. No dreams allowed in such a mess. New York, I hate your...
Le monde insolite de Luc Bérimont, New York, la nuit. Diffusé pour la première fois le 5 janvier 1975 sur France Culture, vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.